Bonjour, ici Grégory Phillips. Je dirige le service reportage de BFM TV. Depuis samedi dernier, aucune trace du petit Émile, 2 ans et demi, qui a disparu de la résidence secondaire de ses grands-parents, située dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes d'Haute-Provence. Au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes le jeudi 13 juillet. Il est 11h30 du matin et le petit garçon s'est volatilisé depuis 5 jours maintenant. Les recherches menées dans la commune et autour n'ont rien donné. Chaque jour, le mystère s'épaissit un peu plus. Ce sont nos collègues de BFM d'ici qui, les premiers, ont sorti cette information de la disparition du petit Émile. Cette chaîne locale de BFM est très implantée dans les Alpes du Sud et dans les Alpes de Haute-Provence. Ces journalistes connaissent très bien la région. Ils y ont de nombreux contacts. Alors, comment travaillent-ils ? Comment parviennent-ils à enquêter sur la disparition de cet enfant ? Comment vérifient-ils leurs informations ? On en parle avec Valentin Doyen, qui a sorti l'affaire. Il est le chef du bureau de BFM d'ici. Émile, ils enquêtent sur l'inquiétante disparition. C'est l'épisode 53 du service reportage. Bonjour Valentin.
Ben salut, tu vas bien ?
Ouais, c'est toi qui, évidemment, travaille avec tes équipes sur la disparition du petit Émile. Peut-être d'abord, rapidement, pour commencer, pour les gens qui ne sont pas de la région, est-ce que tu peux nous décrire rapidement ce qu'est BFM d'ici ?
Eh ben écoute, BFM d'ici, c'est une télévision locale qui émet dans les Hautes-Alpes, donc Gap, Embrun, Briançon pour celles et ceux qui connaissent, et les Alpes d'Haute-Provence, Manosque, Sisteron, la vallée de l'Ubaye, le plateau de Valensole et ses lavandes absolument magnifiques. Voilà, c'est une chaîne de télévision locale qui fait de l'info, mais également de l'ultra-proximité avec des reportages qui valorisent le territoire. C'est ça BFM d'ici.
Donc évidemment, la disparition du petit Émile samedi en fin d'après-midi se déroule sur ton territoire. T'es le premier à sortir cette information, la disparition du petit garçon. Comment as-tu cette information ?
Eh ben, en réalité, c'est tout simple, je vais être très franc avec toi. J'étais censé être en vacances écourtées naturellement, et ma fille de 16 ans me dit « mais tu es au courant de cette disparition ?» Et je lui dis « quoi ?» C'était au moment du petit déjeuner dimanche, et je dis « ben non, et je suis en vacances, mais ça m'intrigue quand même ». Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ouais. Et je regarde et il y avait quelques messages sur les réseaux sociaux, rien de clair. Donc, j'appelle un contact, même si je suis en vacances, j'appelle un contact, une source que j'ai. Et je lui demande ce qui se passe et il m'explique. Et il m'explique ce qui se passe. Il me dit, voilà, depuis hier, en effet, il y a des recherches qui sont entreprises avec la disparition d'un enfant. Donc là, je me dis, OK, c'est bizarre, des habitants qui participent, des gendarmes, des pompiers. Et donc, je pars sur l'information assez rapidement. J'appelle des contacts, sachant que j'en avais dans la commune du Vernay, petite commune au-dessus de Digne-les-Bains, entre la montagne et les champs. Et j'appelle là-bas et on me confirme que c'est le branle-bas de combat. Je saisis quand même assez rapidement que c'est étrange et que c'est une grosse affaire. Et c'est pour ça qu'on part vite dessus et que l'ensemble des médias nationaux et locaux nous emboîtent le pas.
Comment est-ce que tu commences à travailler ? Donc d'abord en appelant tes premiers contacts qui sont au Vernay ou autour, j'imagine les autorités, le procureur, enfin comment est-ce qu'on débute le travail sur une telle affaire ?
En réalité, y avait des appels à témoins qui commençaient à être mis sur les réseaux sociaux. J'ai vu des numéros de téléphone, je les ai appelés, j'ai gratté. Avec ces gens, j'ai réussi à avoir un nom de famille, le nom de famille du petit Émile. Et j'ai réussi avec une source à savoir qu'ils étaient un peu du coin, mais surtout de la région marseillaise, d'une commune qui s'appelle la Bouilladis. J'ai été au culot, j'ai trouvé un numéro de téléphone. Je suis tombé sur le grand-père d'Émile directement au téléphone et je lui dis voilà, je lui ai expliqué, je lui dis je suis journaliste, je lui dis on va évidemment parler de ce qui se passe, est-ce que vous auriez une photo d'Émile? Et il m'a aussitôt passé sa fille qui est donc la maman d'Émile. Et elle m'a dit mais ça va être le grand cirque médiatique. Je lui dis écoutez, je ne peux pas vous parler du cirque médiatique, moi ce que je peux vous dire c'est que je travaille avec mon cœur et je pense que si on diffuse rapidement une photo, ça peut être bien. Elle m'a envoyé des photos de son fils. Et ensuite, eh bien, l'information s'est répandue. J'ai naturellement verrouillé l'information avec le procureur de la République. Il m'a confirmé l'enquête, les moyens déployés, quelques sources également des autorités. Et ensuite, les journalistes, parce que je ne suis pas seul, hein, évidemment, il y a toute une grosse rédaction, rédaction avec un cœur énorme, qui s'est démultipliée tout de suite. On était le week-end. Période de vacances qui commence. Il n'y avait que deux journalistes à BFM DC qui travaillaient ce jour-là, Hugo Marseille et Martin Reynaud, qui ont changé leur programme. Hugo est resté au desk, Martin a filé au Vernet et il avait quand même la primeur de beaucoup d'informations puisque les médias, le temps qu'ils arrivent sur place, étaient un peu à la bourre, ce qui est tout à fait logique. Et donc, les deux ou trois heures que Martin a pu avoir d'avance sur nos confrères ont été très importants parce qu'on a pu avoir des informations, des témoignages et on a pu aussi fournir notre grande sœur qui est BFM TV.
Et évidemment, toi et tes équipes connaissaient bien la région, très bien la région. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la topographie, le Vernet, le Haut-Vernet, c'est un hameau, c'est un petit village?
Le Vernet, c'est une petite commune d'environ 150 habitants, on va dire 200 en période estivale parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires. Et là où la disparition a eu lieu, c'est un hameau. Il faut savoir que chez nous, au territoire de montagne, il y a beaucoup de villages qui ont des hameaux. Et là, c'est un hameau qui est le Haut-Vernet. Une quinzaine, une vingtaine de maisons, pas plus, beaucoup de résidences secondaires. Un hameau qui est situé à 1 km, 1,5 km du centre-bourg du village. On est sur un territoire qui est à la fois un territoire ultra-rural, avec des champs, avec une activité pastorale, donc des bergers, des brebis, des chiens de protection, et on est sur un territoire qui est aussi montagneux. On n'est pas très loin des stations de sport d'hiver. Pour celles et ceux qui connaissent, il y a une vingtaine de minutes de là, la station de Chabanon, Grand-Puy, qui sont des stations familiales, Montclar un peu plus loin, et ensuite la Vallée du Bail. On est vraiment là sur un territoire qui est ultra rural, avec une très faible densité de population au mètre carré.
Et donc avec, évidemment, tout le monde qui connaît tout le monde dans un hameau, tu l'as dit, avec une population très petite. Donc j'imagine que tout le monde connaît la famille du petit Émile.
Tout le monde se connaît. Tout le monde connaît cette famille. C'est une famille qui vient depuis exactement 22 ans, grande famille. Les grands-parents d'Émile ont une dizaine d'enfants, je crois que c'est 9 de mémoire, avec une volonté de s'inscrire dans une foi catholique ultra pratiquante, donc des cousinades, des réunions de famille régulières, très importantes en nombre. Et le week-end de la disparition du petit Émile, en tout, il y avait une dizaine de personnes, une dizaine de membres de la famille qui étaient réunis. Ce sont des gens qui font beaucoup de randonnées, des gens qui chantent à l'église une fois par an, qui chantent des cantiques, des chants religieux, des gens qui font énormément d'équitation aussi et qui a l'habitude de fréquenter le centre équestre du Vernet. Donc une famille avec 10 enfants déjà, ça ne passe pas inaperçu dans un hameau. Donc, des gens très connus et naturellement, tout le monde se connaît dans un village de 150 habitants. Voilà, tout le monde connaît cette famille. Beaucoup de gens ont vu grandir le petit Émile et l'ont vu au fur et à mesure des vacances scolaires.
Sur l'autel de l'église du village, de simples mots pour petit Émile et sa famille. La messe de ce dimanche sera en partie dédiée au garçonnet. Une paroissienne avait assisté à son baptême ici même. Depuis 5 jours, elle multiplie les prières.
Ce sont des gens très très bien, une famille heureuse.
Voilà tout ce dont les quelques voisins se souviennent. Selon eux, les parents et grands-parents d'Émile habitent dans un hameau résidentiel tranquille avec des chevaux. Ils n'en savent pas plus. Dans le village, l'émotion est encore vive.
J'espère qu'on va le retrouver, hein, mais malheureusement, s'il n'y a pas de traces, c'est pas facile tout ce qu'on vit actuellement. Donc, voilà.
Ici, les conversations se répètent depuis 5 jours. Dominé par l'incompréhension.
On en parle, bien sûr, tout le monde en parle. Mais je veux dire, après, nous, c'est un village. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. J'ai jamais entendu parler d'aucune histoire. C'est des histoires de village.
le numéro d'appel à témoins est toujours actif.
Le procureur demande à tous ceux qui peuvent avoir des informations susceptibles d'aider le travail des enquêteurs d'appeler ce numéro qui s'affiche sur votre écran, le 04 92 36 73 00.
Tu parlais de la confiance que la mère d'Émile t'a accordée dans les toutes premières heures en t'envoyant une photo. Comment toi et tes équipes vous faites pour évidemment faire votre travail de journaliste, à savoir aller chercher des infos, etc., sans importuner la famille ou les proches et sans déranger les services de secours qui travaillent aussi sur le terrain. Comment est-ce qu'on trouve la bonne limite entre ces trois impératifs-là ?
Je pense que déjà, il y a une déontologie. Déjà, il y a le fait de ne pas se presser, de ne pas accélérer forcément la cadence. Quand on a une info, on la traite, on la verrouille, on la recoupe. Ce qui est primordial parce qu'on a un devoir d'exemplarité. On s'appelle BFM, donc on n'a pas le droit à l'erreur. On doit être précis. Et on agit. Les journalistes de la rédaction, c'est pareil. Je dis encore, on agit avec le cœur. C'est qu'on est journaliste, mais on se met aussi à la place des personnes qui sont en face de nous. La famille, naturellement, qui n'a pas souhaité s'exprimer depuis le début de cette affaire. Peut-être que ça évoluera. On y travaille, bien sûr. Mais on ne les force pas. Et si ça fait, ça fait. Ça ne fait pas, ça ne fait pas. Mais on se met également dans la peau des enquêteurs qui ont besoin d'une certaine sérénité pour travailler. Il y a des nuées de caméras, des nuées de journalistes. C'est pesant. Pesant pour les enquêteurs, pesant pour les gendarmes, pesant pour nos sources sur place, pesant pour la famille, pesant pour les élus, pesant pour tout le monde. Donc, on fait deux pas de côté, on fait deux pas en arrière et on essaye de respecter nos interlocuteurs et de se mettre à leur place tout en allant chercher des informations parce que on est là aussi pour ça. On est là pour ouvrir des portes, les refermer et ne pas tomber dans la surenchère. En fait, c'est tout simplement ça. Le fait divers est assez important, grave. On sait très bien qu'on est là pour donner de l'information, on est là aussi pour être regardé, pour faire de l'audience. Ce n'est pas un gros mot dans notre bouche. En revanche, le fait divers est assez gros pour ne pas à ce qu'on ait en rajouter. Donc, on est ultra réglo là-dessus, avec la famille, mais avec toutes celles et ceux qui travaillent depuis le début de cette affaire.
Comment tu analyses la communication du procureur qui de temps en temps fait des points presse assez courts, qui par exemple hier révèle le fait que plusieurs membres de la famille se trouvaient dans la maison ce samedi après-midi, information qu'on n'avait pas dans les premiers jours.
En fait, ça, pour la petite histoire, c'est moi qui ai l'info, hein, et c'est la rédac. Hein. On sort l'info hier, c'est une exclue. On appelle le procureur, il ne nous la confirme pas. On arrive à se la faire confirmer auprès d'habitants et de sources locales. Donc, c'est une bonne info. Après, j'ai vu dans la presse qu'il n'avait pas nié. Pour revenir sur la communication du procureur, je le connais bien, Rémi Avon. C'est un procureur qui est très à cheval sur la violation du secret de l'instruction. C'est un procureur qui ne pratique pas spécialement le off, comme on dit dans le milieu journalistique. Et c'est quelqu'un qui est très mesuré dans ses propos. J'ai pu échanger avec lui, il a aussi une grosse pression. Moi, je me mets aussi à sa place, même si je ne suis pas procureur. Là, c'est une affaire qui est difficile. J'imagine que lui aussi, il veut avoir des réponses, mais c'est quelqu'un qui travaille, comme la justice doit le faire, sur des faits. Et il ne parle pas pour ne rien dire. Et le fait qu'il nous ait confié qu'il allait arrêter les points presse, ça montre aussi qu'il veut faire redescendre la pression sur le village, sur la famille, sur les enquêteurs. Parce que c'est très difficile de travailler sous pression, très difficile, avec toutes les informations qu'ils ont en leur possession maintenant, c'est-à-dire 1200, un peu plus de 1200 appels hein, quand même sur le numéro qui a été mis en place par la préfecture et les services de justice. Ils ont reçu plus de 1200 appels. Maintenant, il faut que les enquêteurs de la section de recherche de Marseille, des gendarmes, travaillent, recoupent tout ça. Et donc, le procureur, dans sa communication, il est très prudent et je peux le comprendre, parce qu'il veut faire redescendre la pression qui est déjà à son maximum.
Aujourd'hui, on est 5 jours après la disparition de ce petit garçon. Quelles sont les principales questions que toi et tes équipes vous posez ? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre ou à trouver ?
Moi, j'ai la volonté de faire confiance aux enquêteurs, aux procureurs, mais aussi aux habitants. Et j'ai eu pas mal d'habitants et la rédaction aussi au téléphone, ou sur le terrain, nous disant que le moindre centimètre carré avait été ratissé. Que beaucoup d'habitants m'ont confié que si il y avait Émile toujours présent sur place, il aurait été retrouvé. Donc, on est là aussi pour ouvrir des portes, toutes les portes, sachant que la justice nous a bien confirmé que toutes les pistes étaient envisagées. Nous, médias, on va sur toutes les pistes. Hier, nous sommes allés, par exemple, sur la pratique de la religion catholique qui est prédominante dans la religion, dans la famille du petit Émile. Très bien. On va maintenant passer à une espèce de portrait des parents d'Émile. Qui sont-ils ? On apprendra très rapidement que ce sont des gens qui ont fait de la politique. Je trouve que c'est intéressant que nous y allions. Évidemment, en prenant soin toujours de rappeler que des gens font de la politique peut-être, c'est pas pour autant que ça a un lien avec l'affaire. Peut-être que ça aura un lien, mais nous, on n'est pas là pour faire, pour se projeter dans le futur. On est là pour ouvrir des portes et les refermer. La famille ne veut pas communiquer, c'est un droit qu'elle a, nous le respectons. En revanche, ça ne nous empêche pas, nous journalistes, d'enquêter sur la famille. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Combien sont-ils ? Que font-ils aujourd'hui ? C'est important. Important de savoir. Donc là, on est en train de travailler sur la famille d'Émile. On travaille également sur ce qu'est le bornage téléphonique, à quoi ça sert. On essaye de travailler aussi avec des enquêteurs, bien qu'on respecte bien sûr le secret de l'instruction. On ne veut certainement pas le violer parce que c'est pénalement répréhensible, même quand on est journaliste. Donc on est là-dessus, sur quelles sont les portes à ouvrir, quelles sont les portes à refermer.
Valentin, je ne vais pas te déranger beaucoup plus longtemps. Une dernière question. Depuis samedi, évidemment, toi et tes équipes travaillaient très fort sur cette affaire. Il y a eu le renfort d'équipes venues de Paris, de BFM TV. Quels sont éventuellement les avantages que vous avez, vous, par rapport aux équipes envoyées de Paris, en connaissant très bien le terrain et la région ? Sur quoi ça peut jouer ?
Ça peut jouer énormément en fait sur le début et sur les gens qui se confient. Et nous, on joue sur cette carte-là, hein. C'est important. Hein. BFM TV, c'est une machine de guerre. Quand elle se met en route, les moyens sont démultipliés. Il y a un service police-justice qui fait un énorme travail, qui a un réseau incroyable sur toute la France. Mais disons que quand on appelle des gens au Vernet, quand on appelle des gens à Digne-les-Bains, quand on appelle des gens à Barcelonnette, ce sont des gens qui ont l'habitude de consommer BFM d'ici parce que ça fait une grosse audience. Moi, je suis chef de bureau, mais en plus, je suis présentateur. Donc, quand j'ai des gens au téléphone ou quand les journalistes que j'ai ont des gens au téléphone, ils ne parlent pas à BFM d'ici. Ils parlent à Valentin, ils parlent à Barbara, ils parlent à Laurie, ils parlent à Hugo. Et ça, ça fait toute la différence en réalité dans l'approche et dans les confidences qu'on peut aller chercher. Et nous, notre plus-value, elle est là. Elle ne va pas être à la limite sur le gros scoop parce que le gros scoop... BFM TV va l'avoir, le service police-justice peut-être du Parisien va l'avoir. Il y a des gens qui sont costauds pour ça en France et dans la rédaction parisienne. En revanche, nous, les à côté, par exemple, j'ai eu une petite info ce matin, assez intéressante, toute la famille d'Émile reste sur place, sauf la grand-mère qui se déplace pour un rendez-vous médical en région marseillaise. Ça vaut ce que ça vaut. Certains diront que ça vaut pas grand-chose. Nous, on a cette petite info supplémentaire. Peut-être qu'elle sera utilisée par Paris ou pas. Mais on a tous ces petits à côté. Parce que les gens sont plutôt rassurés lorsqu'ils nous parlent parce qu'ils nous connaissent. Ça, c'est important.
En tout cas, effectivement, cette très fine connaissance de la région, de la population, associée à ce que tu qualifies de machine de guerre de BFM TV, fait que, et je te le dis sans flagornerie, depuis 5 jours, je trouve que tes équipes et les équipes envoyées depuis Paris font un travail extrêmement sérieux, précis, contrôlé et maîtrisé. Et évidemment, dans une affaire comme celle-là, c'est extrêmement important que tout soit maîtrisé.
Eh ben merci de tes encouragements. J'espère que les téléspectateurs et les auditeurs du podcast partagent ça. Je sens qu'on est très regardé, très écouté. On n'a pas le droit à l'erreur et on va tâcher d'être le plus précis possible jusqu'au bout de cette affaire qui est quand même l'une des plus grosses affaires des 30 dernières années dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Merci Valentin. Bon courage pour les prochaines
merci
heures,
à toi.
Les prochains jours. À bientôt.
À bientôt. Ciao. Au revoir.
Voilà, c'était le 53e épisode du service reportage à retrouver sur la plateforme RMC BFM Play et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.